Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Victor Toutougoro, le président de l'UPM, l'Union Progressiste en Mélanésie. Victor Toutougoro, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation après le congrès de l'UPM qui était réuni les 9, 10 et 11 novembre à Poum pour revenir sur le bilan de ce congrès, sur le positionnement de l'UPM et plus globalement, bien sûr, sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. Avec un mot peut-être d'abord sur votre parti, l'UPM, c'est un parti relativement discret. Combien êtes-vous? Combien de comités locaux? Depuis quand existe l'UPM?
Alors, l'UPM a été fondé en 1974 par une scission de l'Union multiraciale à l'époque qui a fait le front, le FULC. Je cherchais le terme. Front uni de libération kanak, le FULC de Yen Tseleni Ouregay. Et donc l'Union progressiste multiraciale à l'époque de Louis Tamay, de Edmond Criaille, Jean-Marie Laurent et d'autres. Hein. Alors l'Union multiraciale, elle était déjà une scission de l'Union calédonienne.
Déjà, mais en tout cas, vous êtes aussi l'un des partis fondateurs du FLNKS en 1984. Et il y a plusieurs années, vous êtes rapproché du PALIKA pour former l'UNI, l'Union Nationale pour l'Indépendance. C'était déjà une prise de distance vis-à-vis du FLNKS?
Alors, oui, effectivement, on a rejoint à l'occasion des élections provinciales de 2004. Donc on a rejoint la liste UNI, hein, la plateforme UNI, parce que jusque-là, c'était essentiellement une plateforme électorale, et effectivement, pour des raisons de facilité dans le travail hein, avec les camarades du PALIKA, donc on a rejoint pour faire ensemble l'UNI depuis jusqu'à aujourd'hui. Oui.
L'UNI qui, on va en parler, retrouve une nouvelle vigueur aujourd'hui, parce que si on en vient à la situation actuelle, il y a 6 mois maintenant qu'ont débuté les violences insurrectionnelles du 13 mai. Comment vous les expliquez? Quelles en sont les raisons, selon vous? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je crois que l'erreur, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui, hein, l'erreur, ça a été de sortir la question de l'électorat, hein, du corps électoral, de le sortir de l'accord global. Et donc, il y a une partie donc, de la mouvance indépendantiste qui s'est cristallisée hein, sur l'idée de passage en force et qui a fait que finalement, on en est arrivé là, même si nous étions une autre partie du front à dire qu'il faut, au contraire, continuer à en discuter et essayer de le ramener dans un accord global. Donc on n'a pas été suivi. L'idée de passage en force du gouvernement, notamment du ministre de l'Intérieur Darmanin, a prévalu. Et donc, finalement, on a été un peu surpris par l'ampleur des débordements et le caractère des débordements, des actions qui ont suivi.
Vous n'aviez pas vu cette émergence de la CCAT qui existait depuis plusieurs mois déjà, quand c'est arrivé au mois de mai?
Alors personnellement, moi je n'ai pas analysé les choses d'une telle manière. Je pensais à une mobilisation, oui, une forte mobilisation pour porter l'équipe de négociation du FLNKS, mais effectivement, je n'ai pas vu l'exaspération qu'il y avait derrière et qui a conduit aux actions qu'on a connues et qui ensuite, par effet d'entraînement, ça s'est amplifié. Ce
sont des violences que vous avez, que l'UPM et l'UNI d'ailleurs ont tout de suite condamnées, enfin très vite condamnées.
Tout à fait, tout à fait. On a condamné parce que, je le redis, hein, l'UPM est un parti progressiste. Hein. Progressiste, on veut le progrès dans toutes ses dimensions, progrès politique, progrès social, progrès économique. D'ailleurs, l'UPM, à sa création, voulait d'abord une souveraineté économique. Parce que le slogan de l'époque, l'idée de l'époque, c'était de dire qu'il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté économique. C'est pour ça que pendant longtemps, l'UPM a été dans le développement économique, hein, notamment dans nos tribus sur les terres reprises dans le cadre de la réforme foncière. Beaucoup de projets ont été accompagnés ou promus dans le cadre donc, de l'élevage, de l'agriculture, etc. etc. Et donc, le progrès, mais aussi, on a redit par exemple à notre congrès que nous voulons avant tout un pays démocratique, un des pays démocratiques qui fait du droit à la différence, le droit à la diversité, un principe qui veut qu'il soit appliqué, hein, avec le principe de la liberté de conscience, de la liberté de religion, liberté, la laïcité. Mais nous disons aussi qu'il faut continuer à les dire. Il faut continuer à rappeler toutes ces valeurs, parce que ce sont des valeurs qui fondent une société. Hein, et aujourd'hui, les jeunes générations n'ont pas toujours. Hein, ils ne voient que ce qu'ils voient là, ils ne mesurent pas les conséquences ou ne font pas le retour esprit en arrière quand ils disent, par exemple, ben, rien n'a été fait depuis la provincialisation.
C'est l'une des raisons qui sont invoquées pour expliquer ces émeutes, de dire qu'on n'a rien fait depuis la signature des accords de Nouméa, notamment. Vous défendez ces accords de Nouméa, vous estimez qu'il y a des choses qui ont été faites ou depuis les accords de Matignon, qu'il y a un certain nombre d'évolutions notables qui ont eu lieu?
Alors, il faudrait que les gens qui portent ce discours disent en quoi rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le rien? Parce que le rééquilibrage a été entamé, même si aujourd'hui on considère qu'on n'est pas allé au bout de l'idée de rééquilibrage. Mais beaucoup de choses ont été faites. Province Nord, il n'y avait qu'un seul lycée. On en a trois aujourd'hui. De collèges, il n'y avait qu'une ou un ou deux collèges. Ben, on a pratiquement dans toute la province Nord aujourd'hui. Pareil pour l'électricité, pareil pour la santé. La santé, dans chaque commune aujourd'hui, on a des centres médicaux sociaux, hein, les CMS, etc., etc. Les routes ont été faites, ils ont la qualité qu'ils ont aujourd'hui, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas. Et donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'infrastructures ont été faites, beaucoup en matière de développement, en matière de mines. Et donc, oui, mais c'est peut-être pas assez. Mais on est sur une période de 30, 40 ans par rapport à l'idée dont l'idée, ben, ils disent depuis la colonisation, rien n'a été fait. Oui, mais ce qu'on a fait là, c'est pratiquement au bout en 30 ans. Et donc, il faut du temps. Il faut du temps pour faire du développement. Et donc, je disais que toutes les valeurs que j'ai indiquées tout à l'heure, les valeurs, c'était indiqué dans le projet que le FLNKS a porté en 2018 et qui a enregistré la validation donc des 41-43% de la population. On estime, à ce moment-là, ben, ce projet-là, il a été validé. Et dans ce projet, il y avait toutes ces valeurs. Ben, avec les événements depuis le 13 mai, ben, tout ça a été jeté aux orties, comme on dit. Et donc, c'est pour ça qu'on réclame, C'est pour cela qu'on dit qu'il faut une clarification. Parce qu'on a apporté un certain nombre de valeurs. Et ben, depuis le 13 mai, ça a été tout cassé. On a fait le contraire de ce qui était dit dans ce projet politique porté par le FLNKS.
Alors, il y a eu plusieurs étapes, hein, au sein du FLNKS depuis le 13 mai. Il y a eu d'abord en juin le congrès qui devait se réunir à Netshaot, qui a dû être reporté. Il y a eu ensuite le congrès de Koumak à la fin du mois d'août. Vous avez décidé, comme le Palika, de ne pas y participer. Pourquoi? Vous aviez déjà le sentiment que ça n'allait plus, que les choses n'étaient pas claires au sein du FLNKS?
Parce que, effectivement, nous avons demandé à ce qu'il y ait cette clarification depuis des années et des années. Hein. Depuis, je vais dire, depuis la création du FLNKS jusqu'au congrès de Pagou, UPM, membre fondateur, a toujours été d'accord, a toujours été partie prenante dans les décisions prises en congrès par le FLNKS. C'est simplement ce congrès de Pagou pour lequel on n'était pas d'accord, parce que nous avons estimé que le FLNKS, à ce moment-là, depuis le 13 mai, a tourné le dos à la poignée de main historique entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Parce que, qu'est-ce qu'elle veut dire, la poignée de main? La poignée de main, elle veut dire, moi, je te reconnais. Je te reconnais, toi, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu représentes, hein, les uns les autres. On se reconnaît et on accepte de construire ensemble, dans le dialogue. Et ça n'a pas été le cas. Depuis 13 mai, on a tourné le dos à cette poignée de main. Et donc, à la solution négociée que le FLNKS a préconisée jusque-là, on est venu à pour ainsi dire, à des rapports de force.
Pourquoi cette transmission ne s'est pas faite? Quel est le problème? Il est d'ordre coutumier, c'est dans les familles, c'est dans l'enseignement. Pourquoi il y a eu cette rupture avec ce que vous dites être les valeurs qu'a défendu le FLNKS pendant des années?
Peut-être un peu de tout ça. Il y a le fait aussi que peut-être nous les dirigeants politiques, les responsables politiques, on n'a pas assez fait d'informations, hein, ou de formation politique auprès des jeunes. Parce que quand on regarde finalement, c'est sur Nouméa, sur la grande banlieue que les choses se sont passées, très peu en province nord et en province des îles, même si épisodiquement il y a des petites poussées. Mais oui, il y a probablement des responsabilités à trouver dans le format politique, mais aussi dans les choses coutumières, parce que les jeunes, enfin les familles viennent sur Nouméa pour des nécessités de travail, mais aussi d'habitat, etc., etc. Et donc, les jeunes vivent en fait hors des tribus et un peu, je ne trouve pas le mot pour dire que les liens avec la coutume sont un peu rompus, quoi. C'est probablement un amalgame de tout ça.
Les trois référendums en 4 ans aussi ont peut-être contribué à durcir les positions des uns et des autres et donc à aboutir à ça.
Beaucoup de d'invectives, hein, ont été produites, je dis ça comme ça, pendant les trois référendums 2018, 2000 jusqu'en 2021. Donc beaucoup d'invectives et on est resté sur les invectives. Personne n'a fait le premier pas pour essayer donc d'apaiser les choses. Et c'est peut-être le moment ou jamais.
Alors où en est le FLNKS aujourd'hui? Vous demandez une clarification, mais il existe encore? Il n'existe plus avec le départ de deux composantes importantes comme le PALIKA et l'UPM? Ou est-ce qu'il a encore une légitimité, une raison d'être?
Alors, le FLNKS, je le dis, même si ça ne fait pas l'unanimité, hein, le FLNKS est un outil. Parce que l'idée d'indépendance-là, ou la revendication d'indépendance, on va dire ça comme ça, même si aujourd'hui, ce n'est plus une revendication parce qu'elle est connue au-delà de nos frontières, c'est individuellement les gens qui la portent. Ce n'est pas le FLNKS. Le FLNKS n'est qu'un outil qu'on se donne pour faire le travail ensemble. Et donc, à partir du moment où il y a d'autres organisations qui sont là, hein, l'Union calédonienne, le RDO, qui porte une grande part de responsabilité dans les choses où on en est arrivé là, le RDO, et les autres composantes sont toujours dans le FLNKS. Hein, et donc, c'est à eux de faire fonctionner ce FLNKS aujourd'hui. Nous, on a dit, parce qu'on n'est pas d'accord sur les décisions qui ont été prises à Koumac, on n'est pas d'accord déjà sur le fait que le Congrès s'est réuni alors que deux des composantes n'étaient pas présents. Hein. Donc on n'a jamais fait jusque-là, en 30 ans ou 40 ans d'histoire du FLNKS. Et donc, on a décidé de se mettre un peu en retrait.
La nomination de Christian Théa comme président du FLNKS,
ça fait partie du tout. Et donc, on ne pouvait accepter. Et donc, on a décidé de se mettre en retrait un peu. On fait bien la différence entre le fonctionnement du FLNKS habituel, au jour le jour, et c'est essentiellement le portage du travail de relations extérieures des indépendantistes. C'est essentiellement cela. Hein. Mais nous avons décidé donc de nous mettre en retrait, de ne pas participer, donc de nous organiser en interne pour continuer à porter le combat pour lequel on y croit depuis un moment déjà, c'est de dire on veut l'indépendance en partenariat, on veut construire avec toutes les composantes de la Nouvelle-Calédonie, du pays de Nouvelle-Calédonie, on veut construire le pays nouveau de demain avec tous les citoyens du pays. Et c'est ensemble qu'il faudra qu'on aille chercher la solution. Donc c'est sur cette ligne-là que l'on est aujourd'hui, qui n'est pas partagée assurément au sein du FLNKS, et donc qui est partagée par contre au sein de l'UNI.
Il y a l'Union calédonienne qui réunit son 55e congrès actuellement. Le discours d'ouverture est prévu d'ici une petite demi-heure. Vous allez suivre de près ce qui va se passer. Ça peut éventuellement changer l'ordre des choses. Est-ce que vous pensez qu'au sein même de l'Union calédonienne, il peut y avoir une reprise en main, un changement de ligne par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois?
L'Union calédonienne reste le gros parti du mouvement indépendantiste. Ça reste le parti pour lequel on est obligé, donc, obligé de suivre, parce que suivant les décisions qui seront prises au sortir de ce congrès, forcément, ils donneront un peu le tempo de la ligne politique que le mouvement indépendantiste déjà et le FLNKS déjà aussi va suivre. Comme je disais tout à l'heure, on fait bien la différence entre le fonctionnement du front et la partie négociation politique. Et donc, de toute manière, il y aura toujours des relations. Parce que comme nous avons décidé de poursuivre la discussion sur le format de Union nationale pour l'indépendance, et forcément, il y aura des rapprochements par rapport à ces négociations politiques, des rapprochements entre UNI et UC-FLNKS pour le portage de l'accord à trouver.
Justement, est-ce que vous envisagez une reprise des discussions sur l'avenir institutionnel? Alors, il y a deux temps. Ça peut être une décision de l'État de convoquer les responsables politiques calédoniens, ou ça peut être les élus calédoniens entre eux qui reprennent les discussions qu'ils avaient eues il y a quelques mois. Quelle est la solution qui vous paraît la plus jouable? Laquelle est possible?
Alors, effectivement, c'est l'État qui a la main aujourd'hui. Hein, c'est l'État qui a la main dans la reprise des négociations, sous la définition du format, et donc dans le calendrier, même si on sait à peu près le tempo, le calendrier dans lequel on va évoluer, si on s'en tient aux élections provinciales en novembre 2025, le rétro-planning nous fait chercher un accord politique fin mars. Et donc, nous continuons à nous organiser. Hein. La classe politique locale s'est déjà réunie cette semaine pour faire... c'est pas la classe politique, c'est les équipes de négociation. De chaque parti s'est réuni...
Y compris l'Union calédonienne, tous les partis étaient représentés.
L'Union calédonienne était absente. D'accord. Mais donc c'est pour cela que UNI a demandé à ce que on puisse attendre le congrès de l'Union calédonienne pour qu'au sortir de l'Union calédonienne, on puisse continuer le travail. Mais c'est essentiellement un travail de synthèse de tout ce qui a été dit et fait jusque-là. Donc on a essayé de rassembler cette synthèse-là, un peu dans la perspective des prochaines discussions.
Parce qu'on dit qu'avant le déclenchement des émeutes, début mai, il y avait un accord qui était pratiquement prêt. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous avez vraiment avancé sur beaucoup de points ?
Alors, essentiellement, avant mai, c'est essentiellement sur, je vais dire, les aspects annexes. Hein. C'est l'organisation des institutions, c'est la compétence des institutions. Mais on n'a pas avancé, ou on a retardé un peu jusque-là, les aspects essentiels, c'est la sortie de l'accord. Quelle sortie d'accord, dans combien de temps, dans la durée, et quel corps électoral ? Et donc, ce sont les choses... Là, on s'est mis d'accord pour dire oui, il faut reprendre donc, la discussion sur le corps électoral, mais il faut ne pas... Il faut l'inclure dans un accord global, équilibré. Et donc voilà. Voilà où on en est aujourd'hui, on attend que l'État sonne le retour à la table.
Sur l'organisation des institutions, c'est quand même pas anodin non plus. Alors on sait que les loyalistes souhaitent les loyalistes au sens large, les partisans de la France semblent s'orienter aujourd'hui vers une plus grande compétence aux provinces, un retour à ce qui existait dans les accords de Matignon. Ils parlent de fédéralisme interne ou de fédération territoriale. C'est des points sur lesquels il peut y avoir un accord avec les indépendantistes ?
Pour le moment, nous, les indépendantistes, on reste sur le plancher pour nous constitue l'accord de Nouméa. Ouais. Et donc, forcément, on va discuter à partir de ce plancher, des aspects des uns et des autres que l'on porte. Je note quand même que ça ne fait pas quand même l'unanimité hein, en face de nous, là. Mais ça pourrait être... Alors, moi, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'UPM a été créé aussi sur l'idée de souveraineté économique. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Nous... La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, elle est plus dépendante que jamais. Nous sommes, nous, porteurs de la souveraineté. La souveraineté en partenariat avec la puissance, notre puissance de tutelle. Est-ce qu'on peut mettre à profit d'ici, ou bien, peut-être pas mettre à profit, mais lancer l'idée que il faut profiter qu'on a la puissance de tutelle qui est avec nous, qui veut nous aider, qui veut bien faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie se remette en marche avant. Est-ce qu'on peut ensemble mettre en œuvre des programmes qui nous permettent d'être moins dépendants? Moins dépendant, c'est, par exemple, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Bon, ça c'est un débat qui fait justement débat depuis un certain nombre d'années, qu'on n'est toujours pas arrivé là-bas. Mais sur le plan énergétique, par exemple, est-ce qu'on peut s'organiser avec les aides que la France peut nous apporter, notre puissance de tutelle, avec l'Europe, pour qu'on soit moins dépendant des importations pour le pétrole, etc. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour créer les conditions de l'énergie renouvelable ici. Hein. C'est l'hydraulique, c'est le solaire, c'est l'éolien, etc., etc. Mais pareil dans tous les secteurs de la vie comme ça.
Et ça pourrait faire partie de l'accord également ?
Ça pourrait faire partie de l'accord, mais ça pourrait faire aussi partie des choses que l'on porte nous-mêmes. Nous-mêmes, nous, parce que je vois en face, nos copains adversaires disent la même chose. Les loyalistes et les rassemblements disent la même chose, qu'on est devenu trop dépendant de l'État. Archi dépendant de l'État, il faut peut-être s'organiser pour qu'on soit moins dépendant. Et ça va prendre du temps, oui, effectivement.
Alors parmi les points durs que Gérald Darmanin, lui, avait mis sur la table, il y avait le corps électoral, bien sûr, Dieu sait si on en a parlé, et puis il y avait l'autodétermination. Est-ce que ça, c'est un point également dont vous parlez dans les discussions, et quelles sont les propositions qui sont sur la table?
On a commencé à y réfléchir, à en parler, et donc il y a deux propositions sur la table. C'est la durée de 2 générations et la durée de 10 ans. Donc, on va discuter à partir de ça. Hein. On va discuter à partir de ces positions. Et donc, oui, à la sortie, il faudra que ça fasse partie d'un accord.
Mais c'est un référendum d'autodétermination ou c'est un référendum de projet?
Alors, la version 4 du document Martyr proposait ça. Et donc, nous, l'Union nationale, on est d'accord sur cette vision des choses. Pour dire, il faut peut-être qu'on arrête de proposer des référendums d'autodétermination, mais passer au stade de référendum de projet. Hein. Le référendum d'autodétermination, on a vu ça cliver, ça nous a amené au bord de la guerre civile. Et l'idée donc de référendum de projet va amener une autre mentalité, une autre manière de travailler. Et donc, on sera un peu plus dans l'apaisement. Et on a besoin d'apaisement aujourd'hui, au sortir de la crise qu'on connaît depuis le 13 mai. Parce qu'il faut reconstruire le pays. Il faut reconstruire économiquement, mais il faut reconstruire aussi mentalement. Hein, donc auprès de la population, auprès des jeunes, etc. Donc oui.
Vous parliez d'un rétro-planning avec un accord fin mars. Très franchement, est-ce que ça vous paraît possible? On est fin novembre.
Je pense qu'il y a de la bonne volonté aujourd'hui. Hein, pour avoir côtoyé tous les négociateurs de tous les groupes politiques en début de semaine, il y a une réelle volonté d'arriver à un accord politique, de se donner le temps d'ici mars. Malheureusement, les copains de l'Union calédonienne n'étaient pas là, et donc on a dû sursoir un peu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on va scruter donc leur congrès, les décisions de leur congrès, justement pour reprendre les premières discussions qu'on a entre nous ici la semaine prochaine.
Eh bien, c'est quelque chose que nous suivrons bien sûr de très près. Merci, Victor Tsutsugro, président de l'UPM, d'avoir été notre invité dans ce magazine Transparence.
Merci aux auditeurs de m'avoir subi.